esprit des lieux. Une émission de Toufik Hakem.
Un monastère dans les bois, en compagnie de l'architecte montréalais Pierre Thibault. Bonsoir à toutes et à tous. Comment s'inscrire d'une façon pérenne dans un environnement protégé ou à protéger ? Cette question, aujourd'hui plus que jamais d'actualité, a toujours été au centre des préoccupations de l'architecte québécois Pierre Thibault. À l'occasion d'une exposition immersive de son œuvre à la Galerie d'architecture de Paris en ce moment, l'architecte a bien voulu nous raconter la conception de l'abbaye Val-Notre-Dame, imaginée et construite par son cabinet entre 2007 et 2009. Un monastère contemporain impressionnant aussi bien par sa simplicité que par sa beauté, situé au pied de la montagne coupée à Saint-Jean-de-Mata dans la région de Lanaudière. Ce bâtiment en bois n'est pas seulement en totale symbiose avec la forêt, il est aussi en parfaite adéquation avec les rituels religieux des moines trappistes qui l'habitent. Comment restituer par l'architecture l'esprit d'humilité, de silence et de méditation des moines ? Réponse de l'architecte Pierre Thibault dans cet esprit des lieux très habité.
Alors, donc, on est à Saint-Jean-de-Mata. Saint-Jean-de-Mata, c'est un village qui est environ à 1h15 de Montréal, donc on n'est pas très loin. C'est au nord de Montréal, donc on s'en va dans une région qui est à la limite de la zone cultivée. Au-delà de Saint-Jean-de-Mata, on entre dans la grande forêt. Alors donc, c'est pour ça que le bois, là, on n'en manque pas à Saint-Jean-de-Mata. Ils étaient plus au sud, à Oka auparavant. Ils s'étaient installés à Oka. Donc, les moines ont acheté un grand site et ils ont organisé un concours en 2003. J'étais d'ailleurs en France au moment de la réunion où ils invitaient tous les architectes qui voulaient faire le concours. Donc, j'ai pas assisté, mais je suis retourné à mon retour. Et j'ai d'ailleurs, vous avez le cahier de croquis ici, je peux vous montrer des pages. J'ai commencé sur le site comme ça à dessiner.
Et qu'est-ce qui a fait que finalement les moines ont opté pour votre projet alors que vous êtes arrivé en retard, si j'ai bien compris?
Ben oui, alors, ben, je pense que au lieu d'être à là avec tous mes collègues pour une réunion, moi, j'ai été dans le site, seul. J'ai eu cette immersion qui a fait cette connexion particulière avec le site et ce contact que je fais avec les aquarelles m'a permis, je pense, de développer quelque chose qui était en accord avec ce qu'il recherchait. Donc, il y a eu une première sélection. Après ça, on choisit 5 architectes. C'est là qu'ils nous ont d'abord invités, après ça, à vivre avec eux. Et ils m'ont dit, c'est assez étonnant parce que une fois que j'ai été sélectionné...
C'est-à-dire en quelle année, là?
C'est en 2004 que j'ai été sélectionné. Alors, voyez-vous, ça a pris 5 ans. Le monastère a été livré en 2009. Donc, ils ont dit, vous êtes probablement le seul architecte qui a compris qu'un monastère, c'est une grande maison.
Alors, allons voir justement ce monastère, Pierre Thibault, où vous l'avez accompagné par une phrase, « Le silence est beau ».
Ce que j'ai souhaité faire, et ce qui était pour moi quand même des moments impressionnants, les moines pour qui j'ai fait un monastère étaient arrivés au Québec au 19e siècle. Et ils avaient construit un monastère tout en pierre et tout ça, à Oka. Et c'est une communauté qui était importante, il y a eu jusqu'à 200 moines. Mais la ville de Montréal grandissant, ils se sont retrouvés tout à coup dans une banlieue. Et c'est des moines contemplatifs. Et alors, à un moment donné, ils se sont dit, ça va plus, là. Nous, c'est le silence qui est fondamental. Alors, ils ont dit, il faut trouver un autre lieu. Et j'allais avec eux dans ce monastère, et qui était tout en pierre. Et là, ils m'ont dit, Pierre, on a trouvé un nouveau site où on s'assure. Le site doit faire, je pense, 5 km par 5 km. Et ils ont dit, on va mettre le monastère au centre. Donc, pour les prochains siècles, on va s'assurer qu'il n'y a pas de turbulence autour de nous, là. Parce que, au 19e siècle, c'est un petit sentier pour les chevaux. Donc, ils ont choisi ce site. C'est des petites collines ondulantes, parfois avec des portions principalement boisées, mais il y a quand même un peu de culture. Donc, on arrive, on a une espèce de clairière, il y a des champs. Et c'est avec eux, on apprend à vivre en silence. Et j'ai créé mon architecture en fonction de ça, et c'est, je crois, pour ça qu'ils m'ont choisi. Je décrivais depuis tantôt, naturellement, un contemplatif de la nature. Et eux, ils sont contemplatifs, pas juste de la nature, ils sont contemplatifs, et j'ai appris qu'on peut se contempler. On peut contempler les êtres chers autour de nous et on peut contempler son monde intérieur.
Hein. Ça veut dire quoi pour un architecte, être contemplatif? Concrètement, on construit comment?
Ben, il faut, et c'est ça, c'est comme s'il faut qu'il y ait de la place dans les lieux qu'on crée pour la contemplation. Donc, on prend la maquette ici qui est celle terminée. Donc, j'ai garder l'idée du cloître, mais quand on est dans le cloître, vous voyez ici un moine qui marche, on a une grande photo, bien, tout est vitré, c'est-à-dire quand on est dans le cloître, on est dans la nature parce que on a gardé dans la cour intérieure tous les arbres qui étaient là. Alors, les moines font le tour du cloître comme s'il était dehors, là, c'est l'avantage dans notre climat. On pouvait faire ça au Toronnet, mais à moins 30, là, avec leur petite tenue, c'était pas... Alors là,
ils ont accepté le fait que ce soit vitré.
Oui. Et on a bien travaillé. C'est du verre triple. Et comme c'est fabuleux parce que j'ai passé 5 ans de ma vie avec les moines. Ils m'ont tellement appris. Je pars à marcher dans le toit puis je vois tel père qui est là. Alors je ralentis ou j'accélère. On marche ensemble. Avant, il y avait tout muré. Donc c'était comme un lieu qui était triste. Alors là, quand je suis allé dans la bibliothèque un matin très tôt parce qu'après les offices, quand je vais au monastère, je fais la vie de moine. Je mange avec eux, je vais dans les offices. Mais moi, après l'office du matin, à 4 heures, j'allais à la bibliothèque. Et à un moment donné, je tombe sur un livre sur les abbayes cisterciennes. Et une abbaye est en ruine. Et ce qu'on voit, c'est les arbres qui ont poussé dans l'abbaye et tout ça. Alors, j'ai dit, il y aura des arbres dans cette église. Alors, tout le cœur est entièrement vitré également, qui fait que quand on est dans l'église, on est dans la forêt. Et les moines ouvrent les fenêtres de ces grandes... Et les oiseaux, ils chantent avec nous le matin. Quand on commence à l'aurore, les oiseaux chantent avec nous. Et c'est formidable. Je parlais avec un moine dans l'église à Oka. Il n'y avait pas de fenêtre sur l'extérieur, sauf des fenêtres très, très hautes. Et il y avait un chêne très grand. Pour un moine qui aimait déjà les arbres, il dit, moi, tous les matins, je regardais mon chêne. Mais il dit, il a été malade, on l'a coupé. Il dit, moi, là, j'avais plus de lien avec la nature dans notre ancienne église. Il dit... Mais ici, moi, je suis tellement heureux. Et tous les gens qui entrent dans cette église ont ce moment, on entre en contemplation.
Ce sont des arbres que vous avez plantés ou c'est des arbres qui étaient là et vous avez construit autour?
On a construit autour. C'était des arbres, bien sûr, qui étaient là. Et c'est toujours ce que j'essaie de faire. Comme je dis, j'ai un amour des arbres, j'en ai planté moi-même. J'avais un oncle et avec un de mes cousins avec qui j'avais développé une relation particulière. Et mon oncle avait construit son chalet sur une île dans un lac. Et je me disais, quand j'avais 5-6 ans, puis c'est comme ça que j'ai décidé de devenir architecte, mais j'ai dit, mais mon oncle, lui, il y a un paradis à lui tout seul. Alors là, on partait en canoë pour aller sur l'île, les brumes du matin, les oiseaux, et on arrivait là avec des grands pins, l'odeur, le vent dans ces grands pins sur les rochers pour s'amuser. Mais je me dis, il y a tout ce qu'il faut, là. C'est formidable. Même si son chalet était très, très modeste, il nous donnait à vivre cet environnement incroyable. Alors, c'était resté, je me dis, il y a des paradis, parce que je me disais, enfin, il y a des paradis sur Terre. Donc, je me dis, mais alors, c'est possible. Donc, quelque part, j'ai un peu cette quête. Quand je retourne sur mes sites, c'est comme un peu quand j'allais sur l'île de mon oncle, et je me rappelle, il avait organisé, par exemple, pour la douche, c'était un conduit avec accroché à un arbre. Alors donc, la douche, ça tombait de l'arbre. Je trouvais ça, mais je me dis, mais c'est génial. Puis il avait fait des petits quais en bois, mais tout était modeste, mais il y avait comme un désir d'intégration. On avait l'impression que son chevelet avait toujours été là, qui n'était pas du tout perturbateur, qui était même plutôt, et c'est ça qui est incroyable, et c'est ce que j'essaie de faire dans mon travail, une espèce de mise en valeur mutuelle. L'architecture met en évidence cette nature, et la nature met en évidence l'architecture. Et ce qui m'a étonné dans les projets que j'ai faits, la nature arrivait à être plus belle quand l'architecture était là. Quand elle souligne des choses, elle met en évidence des éléments, l'arbre, j'ai des fois embrassé carrément l'arbre qui passe dans la maison et tout ça, c'est comme on arrive à créer, je dirais, un bon voisinage. Donc oui, les arbres étaient là, on essaie de les conserver le plus possible. Puis avec les moines, on a premièrement implanté le monastère, puis on était avec là, puis on a dit, c'est dommage, on ne pourra pas mettre le monastère là. On coupe trop de beaux arbres. Alors là, on est sur le site, puis on déplace, on met des marqueurs au sol, puis on a glissé le monastère jusqu'à temps, parce qu'il y avait des pins extraordinaires, on ne peut pas couper ça, venir s'installer sur un site. Alors, on glisse jusqu'à temps. Bien sûr, il va falloir en couper quelques-uns, mais on se dit, c'est comme s'il y avait des pièces maîtresses dans la forêt qui nous disaient, hey, là, ça va pas, là. Hein? Alors donc, on réussit comme ça, puis à un moment donné, on se dit, ah, ben là, notre intervention aura des coupes sélectives qui endommageront pas trop, je dirais, ces pièces qui ont une importance, donc qui dominent, qui le vent dans les arbres, et ça amène le vent et tout. Donc, on a ce travail un peu, je dirais, c'est entre l'archéologue et je sais pas, l'ingénieur forestier, là, pour dire comment...
Parce que votre architecture, Pierre Thibault, s'intègre dans la topographie, mais par exemple, s'il fallait revenir sur cette réalisation, sur ce monastère, il y a aussi des puits de lumière, il y a des ouvertures. Est-ce qu'on peut repartir avec une description du lieu? Qu'est-ce que vous avez fait? Comment ce lieu a été changé par les arbres, par la topographie, et comment on s'adapte à la nature?
Alors donc, l'idée, vous voyez ici un peu la maquette, donc je voulais, c'est un peu au départ comme si c'était des bras ouverts. Donc il y a l'aile des retraitants, et il y a l'église, et ça nous accueille. Il y a un grand toit au-dessus, donc on est dehors. Vous voyez le toit où il y a des ouvertures. Alors, on est déjà protégé. J'aime l'idée d'arriver, on longe l'aile des retraitants, il y a déjà un abri, puis là, il y a le toit de l'église se prolonge à l'extérieur et crée comme un grand préau. Et on voit, vous voyez que l'éclairage a mis des trous un peu dans cette toiture qui font comme des traits de lumière au sol, parce que quand vous promenez dans la forêt, c'est pas complètement étanche. Donc, il arrive qu'on a ces taches de lumière au sol.
Mais on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul niveau. L'idée n'était pas d'atteindre le ciel, mais bien au contraire, de rester avec la terre.
Exactement. Bon, tout le niveau qui est au niveau du sol, c'est les aires publiques du monastère. Donc, il y a l'église, il y a la bibliothèque. Alors, chaque aile, puis j'ai repris là les règles de Saint-Benoît, qui, après 1000 ans, était... Donc, il y a la dimension spirituelle, l'aile spirituelle, il y a l'aile intellectuelle, il y a l'aile corporelle. Et là, donc, j'ai gardé la même répartition. Tout ça est très contemporain, là, mais j'ai gardé cette idée. Et ce que j'ai modifié, c'est que, normalement, le cloître est complètement refermé. Moi, je l'ai ouvert pour que, quand on arrive sous ce toit perforé, on voit les arbres qui sont dans la cour. Alors là, c'est une portion qui est très, très étroite, vitrée, qui nous permet de sentir que cette cour est ouverte. Et même pour des gens qui ne sont pas des moines, ils ont accès à ce lieu qui, normalement, leur est entièrement dédié. Alors donc, c'est cette ouverture-là. Et les cellules des moines sont à l'étage, et celles des retraitants aussi. Et ce qui n'existe pas, mais j'ai... Je dirais là, eu l'idée en regardant celui de la tourette, chaque cellule a une petite terrasse extérieure. Les moines, quand ils rentrent à 20 heures dans leur cellule, peuvent aussi continuer à aller lire dehors, prier dehors ou contempler, là. Donc, déjà ce contact avec ce grand espace. Et le toit est un peu plus grand, on a tout végétalisé, la toiture. Donc, quand on est même à l'étage, on a presque l'impression que la nature rentre, parce que la petite terrasse s'interrompt. Après ça, c'est le toit qui est végétalisé. Toute cette toiture-là, et les moines laissent la végétation sur les toits pousser. On a presque l'impression que le monastère est un peu chevelu. Alors, suivant la saison, on voit ces plantes-là qui poussent sur les toits. Ils mettent des fleurs et d'autres. Donc, même le toit est... À cause de qu'on a du, il y a du soleil qui entre, vous voyez, à certains endroits, on a ouvert sélectivement, comme dans l'église, il y avait déjà un petit sentier. Quand on a établi, selon la règle de Saint-Benoît, l'église est orientée à l'est pour avoir le soleil du matin pour les premiers offices. Et on a gardé, il y a une montagne au loin, et l'axe de l'église est dans ce petit sentier et dans l'axe de la montagne qui est tout au loin. Alors, on a cette série de plans, et selon les saisons, il y a des choses qui apparaissent ou qui disparaissent, là. Donc, et c'est pour ça que je dis, devant un élément comme ça, tout l'intérieur de l'église est une coque de bois. J'ai voulu un peu, comme ils chantent, sont en musique, comme si on entrait dans un instrument de musique légèrement ouvert pour nous permettre de voir la nature. Alors, ce bois-là est très chaleureux, puis on a travaillé, les panneaux sont légèrement inclinés pour retourner le son. J'avais travaillé avec une compagnie de chorégraphes pour faire un studio de danse. Je fais le bruit, les danseurs, eux, aimaient entendre leurs pas. Et j'avais développé ce système-là Je l'ai présenté aux moines, on dit c'est parfait, comme ça on va.
Vous avez travaillé avec des spécialistes de l'acoustique?
Mais oui. Alors, mais c'est pour ça que ça a pris 5 ans de ma vie, là. Imaginez, j'ai dessiné tous les meubles à l'intérieur de l'église, mais pas juste dans l'église, partout. Travailler avec les moines, c'est arriver à l'unanimité. Toute décision doit être unanime. Donc, on a fait le prototype du banc de l'église. On en a fait plusieurs. On les a placés dans l'ancien monastère et les moines essayaient. Puis, ils l'ont mis dans l'autre église pour tester si...
Ils étaient combien, d'ailleurs?
Ils sont plus maintenant une trentaine, là. Et, alors, donc, on a fait en sorte que ce monastère ait cette échelle de pour une trentaine de personnes. Donc, alors, c'est ça qui... On apprend avec eux que leur rituel... Et là, je comprenais, à un moment donné, quelqu'un a dit, je vais être 25 000 fois ou 50 000 fois dans un espace. On dit, ouais, on n'a pas tellement droit à l'erreur. Donc, mais il nous disait, Pierre, tu nous fais, on va le tester, on va le regarder. Alors que l'acoustique, c'était la même chose. On a eu des spécialistes pour le chant, le matin, ils ne voulaient pas d'amplification. Et j'ai construit comme une coque, qui est comme l'instrument à l'intérieur de l'église, mais qui est détachée des parois extérieures, pour permettre aux moines d'arriver depuis leurs ailes, mais d'arriver directement dans le cœur. De pas interférer avec les gens qui sont déjà dans l'église. Et donc, on voit juste, il y a des petites formes très, très, très petites, on les voit comme ça. Et chose que j'ai trouvée tellement incroyable, il y a des gens, des fois, qui passaient des petits papiers aux moines par les petites formes de... Mais ce que j'ai découvert avec le monastère, principalement, mais avec les autres, c'est que une architecture réussie, et d'une certaine façon immersive. Donc, elle ne change pas simplement notre perception de l'espace. Elle change notre perception du temps. Pendant quelques jours en silence, on entre dans cet état-là, et ce que le Père Abbé, je lui dis, là, il y a la contemplation, plusieurs fois par jour, c'est comme si c'est un élément qui nous rééquilibre. C'est comme si on avait en soi, tout d'un coup, toutes nos tensions, je ne sais trop, font en sorte qu'on redevient plus calme et plus serein. Et ça aussi, c'est précieux dans nos vies. Donc, une architecture bien réalisée a cet aspect, je dirais, sur tout l'être.
Esprit des lieux, Tufik Hakem sur France Culture.
Pierre Thibault, vous avez travaillé avec les moines, vous avez travaillé aussi avec les Amérindiens.
Oui.
Alors, pour vous, les gens qui habitent un territoire, qui connaissent un territoire, qui viennent avec une autre culture que la vôtre,
oui.
C'est tout aussi important.
Tout aussi important. Je raconte quelques anecdotes parce que j'ai travaillé avec plusieurs communautés, dont les Abénaki, par exemple. Alors, j'ai une communauté qui m'appelle pour dire on doit choisir un architecte. Alors j'arrive, comme d'habitude, j'arrive avec notre ordinateur pour pouvoir présenter des projets et tout. Alors j'arrive dans une salle, et tout le monde est assis en rond, et il y a une bûche comme celle-là au centre. Alors, ils me disent « Prenez place ». Mais j'ai dit mon ordi « Non, j'ai pas besoin de ça, vous soyez là, laissez sur la bûche ». Donc il y a 30, c'est les sages du village, là, de Québec, là. 30 personnes, je m'assois sur la bûche. Bon, j'ai dit « Ils vont poser des questions, là ». Alors, je suis assis sur la bûche, 2 minutes, 5 minutes, 15 minutes, là, je regarde, j'essaie d'entrer en contact, mais c'est pas trop, là. Une demi-heure, une heure. On n'a pas échangé un mot, là. Après 1h30, il y en a un qui se lève, puis il a dit, vous avez été choisi par la communauté. Alors là, je suis un peu étonné. Première fois que j'étais choisi. Alors, je parle avec les gens. Ben, il dit, nous, c'est un test. Il dit, il y en a qui, au bout de 5 minutes, sont partis. Il y en a qui nous ont fait une crise, parce qu'on ne leur parlait pas. Et il dit, vous êtes assis, vous nous avez regardés. Il est là, bien avec nous. On a dit, c'est ça qu'on a besoin.
Et du coup, vous avez construit quoi pour cette communauté?
Alors, eux, j'ai appris à comprendre un autre espace-temps avec les moines, mais avec les Amérindiens, c'est un autre... Alors, ils me convoquent après ça à des réunions, j'arrive, puis je me déplace, je fais des heures de route, puis là, c'est la réunion pour parler de ce projet. Alors, je suis avec eux, je suis assis, 1 heure, 2 heures, 3 heures, puis là, j'ai dit, mais on parle pas du projet? Ah non, on n'a pas le temps, là. Alors, je repars, je dis, mais c'est quand même... Je suis venu, je me suis déplacé. Il n'y a pas un autre maître d'ouvrage, moi, qui dit « Venez avec nous au départ, vous allez passer des journées, on ne parlera pas du projet, là. » Alors donc, c'est une autre façon d'aborder la vie. C'est comme un autre espace-temps, c'est une autre façon. La communauté partage les choses, ils vivent ensemble, ils partent. Alors, j'ai fait un musée parce qu'ils ont aussi des artefacts qu'ils veulent présenter et tout, mais une grande partie du musée, par exemple, on a fait une structure près de la rivière, c'est le toit. Ce qui est important, c'est que les gens montent, s'élèvent un peu, puis ils comprennent c'est quoi le territoire Abénaki. Pourquoi ils sont là? C'est parce que la rivière était poissonneuse, elle était bien orientée, il était au soleil, il était prêt, parce que les Abénaki allaient jusque aux États-Unis, donc il y avait tout ce territoire. Donc, c'est de comprendre qu'ils s'étaient installés là. C'était pas comme ça, un coup de dé, là. Il s'était rendu compte qu'il y avait tous les éléments pour... Alors, en comprenant ces éléments-là, ben j'essaie de faire en sorte que ça va être partie prenante de l'expérience quand on ira avec les Abénakis. Et bien sûr, j'ai, avec eux, conservé... Je suis allé voir comment ils faisaient leur tipi. Ils font encore avec les écorces, les couleurs, les odeurs, tous ces éléments-là. Donc, j'ai essayé d'avoir des éléments qui soient légers dans ce que j'ai construit avec eux. Donc, c'est pour ça que ici, j'ai fait une centrale hydroélectrique avec une autre communauté. Alors, donc, ils avaient besoin d'électricité. Mais, alors, ce que j'ai fait avec eux, c'est pas juste une centrale. La photo que vous voyez là, mais j'ai dit, il faut être en communion avec la chute qui procure l'électricité. Puis, eux, de temps en temps, là, ils ferment la centrale parce qu'ils veulent voir la chute. Ils veulent pas que toute l'eau passe dans les turbines. Il faut la voir aussi, donc, dans des moments. Alors, c'est toute une on n'est pas dans une exigence, c'est ça que je trouve formidable, parce que j'ai essayé que d'autres maîtres d'ouvrage j'ai pas pu faire, parce que la première réunion on parle d'argent, la deuxième on parle d'argent, la troisième on dit, mais écoutez, moi là je construis pas de l'argent là, moi je construis des lieux, des milieux de vie, on se comprendra pas là, parce que c'est à chaque fois, non ça coûte trop, mais non, mais là la valeur ajoutée de ça est extrême, si on parle pas d'argent là, sur 100 ans ça va être 10 fois mieux, puis là ça coûte 2%, vous voulez, non, je veux dire, alors...
Alors, comment ils vieillissent, justement, vos lieux, par exemple, pour revenir au monastère?
Bien, quand on fait bien les choses, le bois, je vous ai parlé tout à l'heure, que j'ai vu même en France, des bâtiments en bois qui ont plusieurs siècles, quand on fait les bâtiments de la bonne façon, ils vieillissent, ils ont une patine, ils vont un peu grisonner, ils vont un peu... Bon, je veux dire, c'est comme mon oncle, je veux dire, un peu comme ces arbres. L'écorce d'un arbre, on a l'impression qu'elle devient un peu plus... Mais le bâtiment est sain. Et c'est ça que j'aime avec le bois ou avec les matériaux... naturel, leur vieillissement n'est pas vu comme un avilissement. Je dirais, c'est pas... c'est les traces du temps. Puis on est heureux, puis on dit, ah, mais mon Dieu, le fait qu'il est grisonné, le bois devient la couleur de l'écorce des arbres qui sont à côté. Donc, on apprend à ce dialogue avec avec les éléments qui les entourent.
Pays des oranges,
Florida.
Je m'envole.
Pierre Thibault, pour finir cette émission, pour un peu mieux vous connaître, est-ce que vous pouvez nous parler de votre maison? Vous avez bien sûr construit une maison.
Oui, mais oui, alors... Et j'ai une maison.
Elle est exposée d'ailleurs?
Non, elle n'est pas exposée. Il y a une maquette de. Ça, c'est ma maison familiale qui date, comme je disais, de 2 siècles. Je l'ai fait à côté d'un projet quand même contemporain. Vous voyez quand même des parallèles parce qu'on aime voir les stratégies bioclimatiques et tout qui existaient dans la maison d'il y a 2 siècles. Ils étaient quand même efficients, ces gens-là, hein, parce que pour le bois, pour chauffer, il y avait. Alors, ça, c'est la maison qui m'influence beaucoup, mais. Chose étonnante, je peux vous montrer dans un livre ma maison, mais même si ma maison est complètement contemporaine, j'ai repris des proportions de maison ancestrale. C'est une maison très modeste, mais vous voyez là, à l'intérieur, tout est en bois, il y a beaucoup de fenestration, il y a un âtre.
Bon, relativement modeste.
Bon, mais
mais elle est située où?
Cette maison-là est à 40 km du centre-ville de Québec. À la pointe, on voit la pointe de l'île d'Orléans devant le début là du bouclier canadien. Donc, alors j'ai les oies devant chez moi là, qui viennent, qui migrent tous les printemps et tous les automnes. C'est assez magique. Et on a le Cap Tourmente, qui est un grand parc naturel qui est à proximité. Donc, de là, j'ai accès à tout un réseau naturel incroyable. Donc, moi...
On retrouve tout quand même. On retrouve le bois, les ouvertures, les volumes.
C'est ça, exactement. Et... Ce qui est assez étonnant, j'ai plus d'espace extérieur, de terrasse, que d'espace intérieur. Alors, je vous montre ici, ça, cette pièce-là, elle est extérieure. Donc, il y a une porte, l'été, on ouvre ces grandes portes-là. Ça devient un prolongement, mais ce n'est simplement qu'une toiture. Alors, on a des moments, j'aime, et j'amplifie ça dans tous mes projets, les terrasses, même si c'est un moment où on ne les utilise pas, c'est comme s'ils appartiennent à notre milieu de vie. On n'a pas à les chauffer, on n'a pas à les... Mais c'est intéressant, moi j'aime, au mois d'avril, sortir avec un grand pull pour aller lire au soleil. Et à ce moment-là, il y a une sensation de... On n'est pas dans le même climat. Et il y a le plaisir de redécouvrir des pièces qu'on a dû délaisser à cause de l'hiver. Là. Donc, c'est comme si la maison respirait. Là. L'hiver, on se retrouve près du feu, et la maison se dilate en fonction de l'année. Alors, il y a un petit endroit pour le petit déjeuner, il y a une grande table, on appelle la table des Vikings. J'ai fait une grande table, fait 6 mètres de long. Alors, avec les copains, on va à ce bout de la terrasse quand on est plusieurs. Quand on veut être plus... Alors, quelques tables comme ça sur cette grande terrasse en fonction du soleil, de l'ensoleillement, c'est d'espace qui coûte peu, mais qui permet de s'adapter et de vivre dehors parce que j'ai, bien sûr, à l'intérieur déjà, je vois à l'extérieur, mais je passe énormément de temps dehors. Vous voyez, le travail que je fais principalement, les cahiers de croquis, tout ça, c'est pour être dehors, là.
Monastère dans les bois avec l'architecte Pierre Thibault. Coordination Marceau Vassy. Mixage Pierre Dépagraf. Réalisation Sam Bakiast. We'll be right back.